Voilà, oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à tous et à toutes cinéphiles du vendredi, amateurs de drames sociaux, de films de KPDP ou de fables sucrées, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, et vous avez toujours autant raison de le faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le studio avec Violetta et Olivier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sophie.
Et bien sûr, Sylvain Omanette, dernière
salitre.
Bonjour.
Et puis nous serons aussi avec, ça c'est grâce à la magie, la technique, avec René qui vient d'enregistrer à l'instant sa petite chronique du film de Lajli, Bâtiment 5, mais il ne pouvait pas être là à midi 10. Donc nous allons l'écouter dans un instant. Mais nous parlerons aussi des films Les Trois Mousquetaires, Milady, avec toi Olivier.
Oui, oui, oui. Le numéro 2, le deuxième volet.
Et Wonka, avec toi Violetta. Allez, on commence avec Lajli, Bâtiment 5.
Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
Bah non, justement.
Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire, que d'être maire d'une ville comme celle-là.
À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier, c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
On parle de quoi exactement? Des problèmes sanitaires? Problèmes scolaires, d'insécurité, droit des femmes, on parle de quoi exactement?
On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers dans le département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Le fou.
Bâtiment 5 de Lajli, le deuxième opus après Les Misérables. Et mais je donne tout de suite la parole à René qui a vu Bâtiment 5.
Bâtiment 5, oui, je suis allé voir Bâtiment 5. Et bon, donc j'entre dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. C'est, Bâtiment 5 nous introduit tout de suite dans le film une jeune femme, Abby, très impliquée dans la vie de sa commune, la ville fictive de Montvilliers, une ville de la banlieue pauvre. Et Abby va découvrir le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Menée en douce par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire, et il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction de ce bâtiment 5. Alors, c'est ouais.
On l'a bien entendu là dans la bande-annonce, tous les éléments sont vraiment déjà posés.
Sont déjà là, ouais. Voilà. Donc c'est le deuxième film de fiction de Lajli, le premier étant Les Misérables, qui suivait une équipe de policiers dans une cité qui en parallèle montrait les conflits entre différents groupes de cette cité. J'étais venu parler de ce film à ce micro il y a 4 ans, un film que j'avais trouvé très réussi. Il y avait dans ce film une dimension documentaire très efficace et surtout, le film évitait la vision réductrice avec d'un côté les méchants flics et de l'autre les gentils habitants de la cité. Alors, j'ai aimé également Bâtiment 5. Le scénario est convaincant, le jeu des acteurs qui incarnent les personnages principaux, à savoir Alexis Manenti pour le maire et Anna Diave pour Abby. Bon, ces acteurs emportent l'adhésion, ils ont une réelle présence. Il y a en plus dans ce film des scènes qui sont, moi, je trouve, d'une très grande efficacité. Je pense en particulier à une des scènes du début. qui fait suite à la mort d'un des personnages, et les habitants de la cité descendent le cercueil par la cage d'escalier et ils en bavent comme c'est pas permis, l'éclairage est mauvais, la cage d'escalier est trop étroite, mal conçue. Voilà, cette scène dit tout sur les conditions de vie dans ces appartements HLM construits dans les années 70.
De vie et de mort.
Hein?
De vie et de mort.
Voilà. Et on pourrait citer bien d'autres scènes dans le film qui sont effectivement très efficaces. Il n'y a pas de doute sur les qualités de metteur en scène de Ladj Lee. Les réserves qu'on peut émettre sur ce film, c'est qu'il est par moments peut-être un peu simpliste, un peu réducteur, un peu manichéen, trop didactique. Mais j'insiste, pas tout le temps. Dans l'ensemble, il sonne plutôt juste. Mais voilà, il y a d'abord... Alors, le personnage du maire, qui est un peu trop caractérisé comme le méchant de service. Il y a quelques scènes où les dialogues, loin de souligner le propos, l'affaiblissent, à mon avis, parce qu'ils sont un documentaire inutile de ce que nous montrent les images, qui sont on ne peut plus claires. Là encore, comme dans le portrait du maire, ces scènes et ce portrait sont un peu manichéens. En fait, il en faudrait peu pour que le film... ce film puissant par ailleurs, par son propos et sa mise en scène, soit une réussite. Mais bon, ça reste, avec les critiques que j'ai émises, ça reste intéressant. C'est un film utile en même temps. Utile parce qu'on entend parler dans les médias des problèmes de logement des gens en situation difficile. Mais ce film nous fait toucher du doigt ce problème. Voilà.
Tu parles de manichéanisme, est-ce que la réalité ne l'est pas ?
La réalité l'est peut-être, mais alors c'est tout le problème de l'art et de la vision qu'il donne de cette réalité. Mais enfin, on peut avoir raison sans être parfait. Je veux dire, et là, le portrait qu'il donne de ses habitants est quand même un peu angélique, quoi. C'est pas non plus des enfants de cœur. Et c'est ça le reproche qu'on peut faire à ce film. En même temps, c'est un film engagé. C'est clair, c'est ça. C'est ça le problème, quelque part. Enfin, le problème et la solution, je ne sais pas. Alors, on parle beaucoup moins de cinéma engagé aujourd'hui, moins qu'on le faisait dans les années 70, mais ça existe encore. Et les films de Ken Loach, par exemple, sont la meilleure illustration de ce que peut être le cinéma engagé. Il est clair que Loach se soucie moins d'esthétique que de dénoncer les travers, les injustices de la société britannique. Et à cet égard, j'aimerais faire une digression sur un téléfilm qu'il a réalisé en 1966. Vous allez voir qu'il y a un lien avec Bâtiment 5. Et je veux parler d'un film qui s'intitule « Café Come Home ». C'est un impératif, hein, pas de S à com, il s'agit bien de « Cathy rentre à la maison ». À l'époque, Loach travaillait pour la télé. Et pour la BBC, pour être précis. Et quand le film a été projeté sur BBC One, à l'époque, il y avait 3 chaînes. Un quart de la population britannique a vu le film d'un coup. 13 millions de gens ont vu ce film. C'est absolument exceptionnel. Alors, en 2 mots, c'est l'histoire d'un couple, Cathy et Reg. C'est un couple qui a des enfants. Ils ont un boulot, tous les deux. Ils ont un appartement. Tout a l'air d'aller bien. Un beau jour, à cause d'un accident, Reg va perdre son emploi et là, ça va être un peu la catastrophe. Ils vont devoir d'abord perdre leur logement, habiter dans une caravane, puis pire, et l'État va leur retirer la garde de leurs enfants. Alors, ce film, selon les témoignages de l'époque, a suscité un véritable électrochoc sur la nation tout entière. Une semaine après la diffusion, on a créé une association pour venir en aide aux sans-abri, qui existe encore, j'en témoigne, qui s'appelle Shelter, qui veut dire abri. Plus tard, le gouvernement travailliste a procédé à des ajustements de loi pour protéger mieux les locataires. Selon les témoignages de certains activistes, Cathy Come Home a suscité également un formidable réveil des vocations pour les plus jeunes anglais, vers l'activisme des groupes politiques. Voilà, je tenais à faire allusion à ce film parce qu'il illustre ce que peut accomplir le cinéma engagé dans certaines circonstances, et en tout cas à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Le problème, c'est que tous les metteurs en scène n'ont pas le talent de Loach, et je ne suis pas sûr que le film très engagé de Ladj Lee atteigne son but. Le film de Lodge, je le rappelle, a été vu par 13 millions de spectateurs. Le film de Lodge Lee a fait 88 000 entrées en première semaine. Probablement à cause du bouche à l'oreille qui a souligné ce côté manichéen, ce côté trop
didactique. Univoque.
Ouais, univoque, lourd, un peu lourd. Voilà. Bon, il m'a semblé utile de soulever cette question du cinéma engagé à propos de ce film qui, à mon sens, n'atteindra pas son but et qui aurait sans doute été plus efficace s'il avait été plus nuancé dans sa vision des choses, s'il ne s'était pas efforcé de nous imposer cette vision des problèmes qu'il aborde. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce film, qui par ailleurs a des qualités. C'est évident.
Mais merci René. C'est vrai que le premier opus, parce que je pense que ce sera un triptyque.
Voilà, c'est ce qui paraît.
Il y a un troisième film qui est en préparation. Le premier, donc Les Misérables, avait eu quand même un impact. Je me souviens que Emmanuel Macron était allé le voir, etc. Bon, rien n'en a été fait, mais en tout cas, oui. Politiquement, il a eu.
Franc succès, 2 millions d'entrées, des prix au César, un prix aussi à Cannes. Voilà, bon, celui-ci n'aura pas le même succès, c'est évident. Alors espérons que la troisième partie sera à la hauteur de la première. Voilà.
Merci René. Eh ben, on va écouter maintenant Violetta.
Ben, que rajouter de plus à ce que dit René ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. On est dans un constat, en fait, d'un contact rompu, en fait, entre les habitants des cités et les politiciens qui sont censés les représenter et les écouter. Ces habitants, ces familles, ces communautés qu'on a parquées là depuis les années 60, dans des immeubles, enfin, je tiens à dire que ce sont des immeubles qui sont devenus fragiles et insalubres. Ils ne l'étaient pas au départ. Hein. Ils sont devenus faute de rénovation régulière. Donc, il y a un véritable abandon. Et puis, ces politiciens, ils ne connaissent rien de toute façon du terrain, hein, comme ce maire propulsé suite au décès de l'ancien maire. C'est un pédiatre qui est issu d'un milieu aisé, il n'a pas d'expérience, il est complètement déconnecté de certaines problématiques. Certes, il est engagé politiquement, mais on se dit qu'il y a, il cultive une forme d'hypocrisie de l'image en accueillant des migrants choisis selon certains critères. Et ils n'hésitent pas à recourir aux forces de l'ordre pour faire le ménage. Hein. Sous couvert de réurbanisation des banlieues et d'embellissement des cités, on met sous le tapis, en fait, les problématiques. Donc c'est un véritable dialogue de sourds. On est en fait dans une sorte de spirale dont personne ne peut réellement sortir vainqueur. Donc oui, il y a un message politique, mais moi je trouve que ça manque d'épaisseur. On s'arrête en fait à une lecture individualiste des événements. Si seulement le maire était plus bienveillant. Enfin, je pense que avec ce film, il évacue du paysage le poids des structures. Et puis une lecture un peu matérialiste de la société et de remise en question d'un cadre en fait républicain qui est vicié en fait dès le départ. Enfin, hein, il rejette en bloc la violence comme forme d'expression. Il enfonce des portes ouvertes, quoi. Alors on pourrait se demander, il se garantit quoi ? L'approbation des milieux petits bourgeois de la France blanche qui se gargarisent d'un discours bien aligné sur leurs intérêts en présentant la voie électorale comme unique solution ? Moi, je trouve que ça fait preuve un peu d'angélisme, quoi. Parce que la question, en plus électorale, elle sera finalement pas traitée en profondeur. Ouais. Voilà. Donc, quel est le public qui est visé, là ? On s'adresse à qui, en fait ? C'est une concession faite à un certain public ? Parce que, ça s'adresse à qui ? À des Pierre Forges ? Alors, c'est pas le mauvais bougre. Hein. Il est pédiatre, il s'occupe d'enfants, il est engagé politiquement, avec l'idée, en fait, de servir sa communauté. Mais ça reste néanmoins un bourgeois qui ne connaît rien aux conditions de vie de ses administrés. Et en fait, ces administrés, c'est qui ? Bah, ça reste des étrangers qui potentiellement sont dangereux. Bah, y a les dégradations la nuit, y a les problèmes d'insécurité, surtout quand on rentre tard la nuit. Ils vivent quand même entassés dans des appartements parce que bah, on fait venir les cousins d'Afrique. Hein, mais ce petit maire, là, en fait, bah, la galère administrative de ses administrés, les vendeurs de sommeil, là, les ascenseurs qui tombent en panne, bah, il connaît pas, lui. Hein. Lui, il vit dans sa bulle. Hein. Il pense que, en fait, chacun doit rester à sa place et puis cohabiter en bon voisin. Voilà. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la photographie, c'est quand même... Bon, voilà, on a ces barres d'immeubles. Moi, j'ai par contre été moins convaincue par la musique. Et puis, bah voilà, donc...
Donc pour toi, paradoxalement, ce film, en fait, n'est pas militant, d'une certaine manière.
Non.
Ce que tu as dit.
Oui, je vais garder cette impression.
Cette impression, voilà. Ok. Bon. Tu veux ajouter...
J'ai pas vu le film, donc j'ajoute rien, mais je kiffe les deux chroniques successives de mes amis René et Violetta, là, parce que ça m'éclaire énormément, et voilà.
Et oui, effectivement, on parlait hors micro, l'œuvre d'art, l'œuvre est justement là pour mettre du jeu... pour décoïncider la réalité avec ce que c'est.
Oui, et puis être autre chose qu'un discours en plus plus ou moins convenu, voilà. Donc à comparer avec le travail d'Aki Korismaki ou de Ken Loach, justement, pas grand-chose à voir.
Eh ben merci. Donc, Bâtiment 5 de Lajli. Pour celles et ceux qui veulent quand même se faire leur propre avis, il est à voir à Aubenas et à Privas et la semaine prochaine, en plus à Vals. En cette période de Noël, on a des films un peu de tous les genres, et notamment de cap et d'épée. Oh
Ça va pas tenir.
C'est pas moi que vous voulez sauver, mais Constance Bonacieux.
Où est-elle?
Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée.
Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi.
Qu'avez-vous fait d'elle?
Vous me paierez cette offense.
Il me dira où elle est ou je jure de le tuer.
Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté.
Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non.
Que cela vous plaise ou non. Quel suspense. Les Trois Mousquetaires, Milady de Martin Bourboulon. Donc le deuxième opus des Trois Mousquetaires. Alors, est-ce que tu nous le conseilles?
Bah écoute, c'est la question que posaient nos confrères de France Culture. Faut-il courir aller voir le second volet des Trois Mousquetaires? Alors, j'avais moi vu le premier volet, j'avais même fait un livre, un film sur le premier volet qui m'avait pas plu du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors l'émission est plus audible sur le site, mais c'est pas grave. En résumé, j'avais trouvé le film extrêmement boursouflé, avec les scènes de cap et d'épée qu'on aime depuis qu'on est gamin, étaient complètement dévoyées, parce qu'au lieu de faire bouger les gens, ils faisaient bouger la caméra. Vous voyez, bon, et puis il en faisait des tonnes par rapport au récit de Dumas qui est extrêmement rapide. Ça fait tourner les pages, hein, quand on lit le texte de Dumas. Là, on était devant des étalages. Il y a la scène du bal masqué chez Buckingham, chez Lord de Buckingham, là, qui était complètement. On avait vraiment l'impression que c'était l'occasion d'en mettre plein la vue, quoi. Et ça coïncidait pas avec l'esprit des Trois Mousquetaires, qui doit rester un film de cap et d'épée. Bon, voilà. J'étais déçu. Et j'allais voir le numéro 2. pour comme si je voulais avoir la preuve par neuf, quoi. Oui, bon, effectivement, c'est voilà, bon, c'est pas terrible. Et puis c'était l'adaptation donc de la deuxième partie des Trois Mousquetaires de Dumas, qui est un immense pavé, hein. Voilà. Et surprise, pas du tout. C'est-à-dire, on a l'impression d'une espèce de serrage de boulon généralisé. Du coup, est mis en avant des qualités que le premier volume avait déjà. Donc, les qualités que le premier volume avait déjà, bah, c'est d'abord le casting, parce que là, c'est royal. Enfin, François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, ils vont pas me revenir.
Pierre Marmaille
est magnifique en Porthos, et puis Eric Ruff en Richelieu, extraordinaire. Donc on a là un casting masculin quand même royal et qui là donne beaucoup plus, je trouve, la mesure de son talent. Et je c'est sans second degré, franchement.
Ah oui, ça, oui. Vraiment.
Ah oui, 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 franchement, oui, les différents mousquetaires et d'Artagnan sont bien campés avec un différentiel qui fait percevoir, parce que Aramis, Athos et Porthos sont trois personnages très différents et que Dumas a bien construit très différents. Et là, on les voit effectivement très différents, comme le sont les acteurs. Et d'Artagnan est effectivement le quatrième des Trois Mousquetaires, si vous voulez, et qui est très bien incarné comme tel par François Civil. Donc oui, oui, et puis alors, Eric Ruff, encore une fois, comme cardinal, il est magnifique. Et puis les femmes, hein, en particulier donc Eva Green. Moi, je craignais que le second volet soit tourne constamment autour de Milady, hein, Eva Green, et qu'elle soit de tous les plans. En fait, pas du tout. Elles se font dans l'intrigue. On la suit évidemment de A à Z. C'est quand même le personnage principal du titre, Milady, quoi. Bon, donc effectivement. Mais elle joue son rôle à sa place et elle le joue magnifiquement bien. Enfin, quand même, moi je m'attendais pas à être séduit. Hein. Je m'attendais plutôt à avoir une espèce de rejet, Eva Green, quoi. Voilà, la personne dont il faut parler, qu'il faut voir, qu'il faut kiffer, etc. Bon, moi j'étais pas du tout parti dans son jeu est tout à fait convaincant. La caméra bouge moins. Il y a pas ces scènes de déballage, donc le récit est mené plus à la manière d'Alexandre Dumas, donc avec une succession et avec des morceaux de bravoure comme La Rochelle par exemple. C'est vraiment, alors c'est complètement différent du roman. La Rochelle par exemple, les problématiques sont, enfin la problématique est la même, mais l'action est complètement différente. Mais justement, celle filmée par Martin Bourboulan est beaucoup plus cinématographique, justement. Et ça marche très très bien. Donc moi j'ai été franchement emballé. Comme je vous dis, j'arrivais avec comme si je devais garder un regard extérieur, un peu de critique de cinéma. Et en fait, j'ai été pris par le truc, j'ai pas vu passer les deux heures, et j'ai eu une excellente distraction, quoi. Vraiment une excellente distraction, avec en particulier des combats. Alors, bon, les combats d'épée, encore, c'est peut-être pas, il y a peut-être encore un peu du boulot, quoi. Mais certaines scènes de combat, dont La Rochelle, par exemple, sont extraordinaires. Certains combats dont je peux pas parler sans dévoiler les choses sont, alors là, plus que réussis. C'est vraiment des moments très très forts de cinéma, avec une mise en scène, des décors, etc., qui sont parfaitement au niveau. Et du coup, il y a une proposition de suite à la fin du film, avec ça on peut le dire quand même, Athos, le dernier plan est sur Athos, et ça appelle un troisième film. Il paraît que la réalisation d'un troisième volet dépend du succès qu'aura le second. Donc celui-là.
Ah bon?
Voilà, il paraît. Et donc, effectivement, parce qu'il y a d'autres projets, comme le Comte de Monte Cristo, qui sont prévus dans des productions. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un petit peu en suspens. Moi, comme spectateur, puis auditeur de Fréquence 7 aussi, à l'occasion, j'aurais bien envie de voir le troisième, qui nous ferait sortir d'ailleurs du cadre des Trois Mousquetaires de Dumas, hein, vers autre chose. Et Dumas a écrit des suites en feuilleton et puis en publication. Donc ça nous ferait sortir vers autre chose et j'aurais bien envie de voir ça.
Eh bien, écoute, tu nous as donné, enfin en tout cas moi, tu m'as donné envie d'aller le voir. Les Trois Mousquetaires, Milady, ça dure 1h55. Oui, c'est vrai, là, je l'ai pas précisé, mais les trois films qui sont à l'affiche sont des films avec des durées tout à fait honorables. Oui. Enfin, moins de 2 heures, en tout cas, tous les films. Mais que se passe-t-il? Donc, Les Trois Mousquetaires, c'est à voir à Aubenas, Privas et Ruon cette semaine, puis la semaine prochaine, Auteuil, et puis la semaine de Noël, à Rosières. Un dernier petit pour la route.
Oh, je le tiens.
Alors c'est vous le petit bonhomme qui arrête pas de me suivre partout.
Le petit bonhomme? Comment osez-vous? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa.
Un Oompa Loom quoi?
Sachez qu'à Loompa Land, je suis un personnage de haute stature. On me surnomme le Colosse.
Désolé.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous! Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par...
une théière.
D'inventeur, je vous présente le promeneur poivromatique fou et fantastique de Willy Wonka. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier.
Il fait les meilleurs chocolats du monde.
Ouh.
Il est doué. Trop doué.
Tout le monde peut s'en offrir. Même les
pauvres.
Ah, même les pauvres. Est-ce que c'est du cinéma politique, militant, social? Violetta, toi qui es allée voir Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet notamment, et puis Hugh Grant qui joue aussi.
Le petit bonhomme orange aux cheveux verts. Voilà.
Bon. Alors.
Donc, long métrage de Paul King, là, d'après l'œuvre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Mm-hmm. Je crois que c'est la troisième adaptation. La dernière, c'était celle de Tim Burton, là, 2005, avec Johnny Depp. Là, on voit le personnage de Willy Wonka qui rajeunit au fil des réalisations. Donc là, il a 20 ans de moins, donc il doit avoir 18 ans à peu près. Donc c'est les prémices en fait de sa carrière de chocolatier. Voilà. Donc comme on l'entend dire là, extraordinaire inventeur, magicien, chocolatier, il tente de mettre en place en fait une boutique de chocolat en ville et il va affronter le cartel des chocolatiers qui voit justement d'un mauvais œil son arrivée. Alors qu'il se met à créer ses premières friandises uniques au monde, tout en rencontrant les Oompa Loompa, avec Hugh Grant comme ce petit bonhomme là. Donc c'est une comédie musicale. Bon, les décors sont
comédie musicale avec les chansons du chanteur de The Divine Comedy.
D'accord, voilà. Bon, moi, j'ai pas été très convaincue par ces chansons. Ça reste bien ficelé. Alors, les décors, c'est assez artificiel quand même, propre aux années 60-70. Mm-hmm. Hein, c'est très kitsch. Bon, pour moi, les musiques, elles étaient sirupeuses. Donc, dans cette comédie, ça fait référence à Mary Poppins, le parapluie, la canne. Le magicien, c'est pas le grand sac qui s'ouvre et qui va faire sortir théière, tatati, tatata. Non, c'est son chapeau. Et là, de son chapeau, vont sortir des merveilles, quoi. Donc, que dire. Non, c'est un film familial. C'est une comédie musicale qui aborde le thème de la famille, de la confiance, du courage, de l'amour, de l'espoir, avec un brin de folie. Donc, il y a différents degrés de lecture. Hein, c'est un panel de couleurs, pour continuer à faire rêver petits et grands.
Mais pas toi. Et puis,
non, visiblement. Non, franchement, je me suis sentie très éloignée du Tim Burton et puis surtout du roman, quoi. Charlie et la chocolaterie, c'est quelque chose. Hein. Franchement, ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Mais bon, Timothée Chalamet fait le taf. Hein. Et puis, il y a cette jeune fille aussi qui est tout à fait charmante et tout, mais voilà.
Bon, écoute, tu n'es pas financée par les exploitants des cinémas ici en Ardèche. C'est bon.
Tout à fait.
Tu essaies de le défendre malgré tout. Bravo. Oui. J'entends que la magie n'a pas opéré.
Non.
Pour toi.
Mais le livre est bien, je ne connais pas le livre.
Oh, c'est super, écoute, franchement. Je le lisais à mes petites maternelles et tout. Et alors, bien sûr, j'amenais toujours du chocolat parce que, franchement, quand tu lisais, tu ne pouvais pas repartir sans un petit morceau de chocolat.
Il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce bouquin. Donc, Wonka de Paul King. Paul King, c'est lui qui avait réalisé Paddington. Et alors, ce qui est marqué dans la bande-annonce, bon, voilà, on y va à coup de. Par le réalisateur de Paddington et le producteur de Harry Potter.
Ah oui.
Ah ben oui, ah mais oui, oui, il faut, mais bon, mais non, plouf, bon, enfin non. En tout cas, bref, à voir peut-être. En tout cas, il est à l'affiche des cinémas de d'Aubenas, Privas, Ruons, et puis la semaine prochaine, à Rosières. Et bien voilà pour trois films complètement différents. Bâtiment 5, Les Trois Mousquetaires, Milady et Wonka. Merci à tous les deux d'avoir été là.
Merci
pour
Sophie.
Nous en parler.
Merci Sylvain.
Ouais.
Et merci Sylvain pour la réalisation de ce Cinémascope. Et un dernier avant la trêve de Noël, un dernier Cinémascope vendredi prochain. On verra bien ce qui est à l'affiche ou alors on parlera de nos films préférés de l'année. On verra. À vendredi. D'ici là, bon film et bon week-end.